Welcome to the 5 to 6 p.m. on the CRTV Radio Network, a presentation of Maureen Wanze-Wilai and Larissa Engona. The headlines.
Au sommaire du 17-18, formation professionnelle, jour de rentrée officielle. Le temps de l'année 2024-2025 a été donné sur fond d'appel à une meilleure appréhension de l'intelligence artificielle dans le secteur. Contexte, portée et explication de cette orientation dans le 17-18. Vous entendrez Issa Chiroma Bakari, le ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle.
15 people are reported dead, 10 others injured following an accident that occurred this morning in Kombe, a locality in Sangmalima subdivision of the South Region, while 8 people in Mayodanai Division in the far north have been killed in a canoe accident on the Logone River.
Axe Sangmalima Yaoundé, l'horreur et la douleur. 15 personnes ont perdu la vie ce matin dans un accident de la circulation routière impliquant un gros porteur et un bus de transport interurbain. Les premiers éléments de l'enquête désignent l'excès de vitesse et le non-respect des règles de circulation de la part du conducteur du gros porteur. Précision à suivre du gouverneur de la région du Sud dans ce journal.
And in sports, the indomitable Lions are sharpening their claws in the fifth training session ahead of their two-leg AFCON qualifiers against the Harambee Stars of Kenya on the 11th and the 14th of October 2024.
Le 17-18, c'est 60 minutes de nouvelles et d'actu prospective sur les grands moments de la nation. Le focus du jour. Le sport, l'actu internationale. Le grand reportage, l'interview et l'invité du 17-18 pour vous informer en direct du poste national de la CRTV.
Merci, mesdames, messieurs, d'écouter le 17-18. Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur l'état de santé du président de la République, Paul Biya. Certaines de ces rumeurs annoncent même sa mort. Ce scénario ressemble à s'y méprendre à celui vécu il y a 20 ans dans les mêmes circonstances. Les acteurs de cette entreprise veulent visiblement semer la panique et en tirer bénéfice, dont le plus grand est l'accès à la magistrature suprême. L'éditorial de Valérie Dikosumaru.
Qui veut tuer le président de la République, Paul Biya? Ces derniers temps, ils n'en sont plus à vouloir sa mort par des souhaits, des vœux et autres incantations. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Depuis quelques jours, ils ont orchestré sa mort en utilisant la rumeur et son ultra-puissant amplificateur que sont les réseaux sociaux. Il n'y a plus un seul jour où une nouvelle pseudo-source est citée par WhatsApp, Facebook, X et que sais-je encore, annonçant la mort du président de la République. Notre bon sens est mis à rude épreuve, au point où nous ne nous posons même plus la question de savoir si une même personne peut mourir chaque jour. Souvenons-nous, en 2004, il y a 20 ans, la rumeur et quelques journaux s'étaient fait l'écho de la mort du même Paul Biya. Quasiment dans les mêmes circonstances. Le président était alors hors du pays depuis quelque temps et des gens avaient monté une histoire de toutes pièces. De retour à Yaoundé, le fantôme leur avait donné rendez-vous une vingtaine d'années plus tard. Les mêmes, ou ceux qui leur ressemblent, ont décidé qu'une vingtaine signifie 20. Et 20 ans plus tard, les voici au rendez-vous avec le même fantôme. Le contexte, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et l'âge du patriarche ont achevé de donner du crédit à une information où le plausible le dispute à la réalité, à la vérité. Paul Biya lui-même n'a pourtant eu de cesse d'expliquer que la succession à la tête du Cameroun est organisée par des institutions qui existent et qu'il a patiemment mises en place. Et que le moment venu, les institutions fonctionneront. Les entrepreneurs de la panique et du chaos sont à l'œuvre pour créer une situation dont ils espèrent tirer bénéfice. Mais rien, alors rien ne prouve qu'ils en seront les bénéficiaires parce que le chaos ne choisit pas ses victimes. Tout homme politique qui se respecte sait que rien ne vaut la paix. Le désordre comme programme de lutte pour succéder à Paul Biya est donc questionnable. Le Cameroun est un pays stable. Le Cameroun est un pays fort. La force et l'intelligence de ses enfants le feront triompher, lui donneront de surmonter toutes les épreuves.
Valérie Dikos Oumarou, éditorialiste, directeur des rédactions radio.
And rumors about the health of the head of state, President Paul Biya, have been dispelled by the government. Editorialist George Kelong now says at a time when Cameroonians ought to get more involved in meeting the development challenges, it is worthless spreading such baseless rumors or trying to make political capital out of them.
Before a series of refutals were issued, social media platforms and even conversations here and there were dominated by the baseless rumors about the health of the head of state, President Paul Biya. On the whole, the agitations could only tell the story of individuals who are misguided, unscrupulous, and depraved. That some members of the political class got so excited by the rumors can only be mind-boggling. Yes, have we descended so low to the extent that individuals, some of whom are politicians, pray for and gloat over any misfortune that befalls anyone, talk less of the person chosen by the people to lead them? As human beings, we need not be told that no one will live forever, given that the Holy Book teaches that there is an appointed time for every person to be born and a time to die. But that time cannot be decided or determined by any human being. Even those who were about to roll out the drums to celebrate certainly do not know what the future holds for them. Thus, rather than take interest in issues that are not of benefit to anyone or to the nation, Cameroonians ought to, with what they can individually or collectively contribute towards meeting the development challenges the country. In this pre-much by working out strategies that may appeal to the electorate in due course. If they are wasting precious time on futile debates on constitutional provisions, they may be seen to only be waiting for manna from heaven.
George Kelong, editorialist.
Réseaux sociaux, quand les fake news tissent leur toile. Santé du président, à candidature erronée, montage vidéo, piratage de données, le faux et l'usage du faux se disputent la vedette sur Internet. Gros plan ce soir sur quelques astuces de détection des fausses nouvelles, c'est le focus du jour, à suivre en page magazine. On en vient à présent à ces précisions du gouverneur annoncées dans la vitrine de ce journal. Félix Nguilingué, le gouverneur de la région du Sud, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'un accident mortel de la circulation routière est survenu ce mercredi 9 octobre 2024 aux environs de 7h30 dans la localité de Kombé, arrondissement de Sanmilima, sur l'axe routier Sanmilima-Balmayo, engageant en bus de la compagnie de transport routier interurbain Galaxy Voyage immatriculé CE044 OA et un camion semi-remorque immatriculé LTTR 978 AT. LTSR 572 AT et Bertois Logistique, appartenant à la société TGV basée à Douala. Les premières constatations révèlent que le dit accident serait consécutif au non-respect des règles de la circulation routière et à l'excès de vitesse de la part du conducteur du camion. Le bilan de cet accident fait état de 15 morts et 10 blessés pris en charge aux urgences et aux soins intensifs de l'hôpital de référence et de l'hôpital de district de Sanmilima. Une enquête est ouverte au niveau des services compétents de la gendarmerie pour déterminer les causes et les responsabilités du dit accident qui vient plonger des familles dans le désarroi. Le gouverneur de la région du Sud appelle les usagers de la route à plus de responsabilité et de prudence dans l'observance des règles de la circulation routière tout en saluant l'interaction des autorités administratives, des FMO, des sapeurs-pompiers, de la délégation départementale des transports et plus encore, la promptitude des populations à porter secours aux victimes. Le gouverneur de la région du Sud adresse aux familles durement éprouvées les condoléances du gouvernement auxquelles il associe les siennes propres. Félix Nguilingué, le gouverneur de la région du Sud, accompagné du préfet du Dja-Ilobo, était donc sur les lieux du drame, aussitôt informé ce matin, à l'effet de diligenter une prise en charge rapide des accidentés. Voici le reportage de Flavien Zobo à Sanmilima.
Sur le lieu du drame, un quaster complètement broyé, tout à côté un camion semi-remorque, presque coupé en deux. Aux abords de la route, le regard stupéfait des populations qui vivent en mercredi noir.
Galaxy a cherché à se défendre depuis, il n'a pas pu. C'est le plateau qu'il a donc alors renversé jusqu'à ce point.
J'ai entendu le bruit parce qu'il était à côté de la route. Et quand je vois un car posé, et quand je pars, là où le monsieur pleurait, c'est là où je couvais les membres.
Aussitôt, les secours vont se déployer. FMO, sapeurs-pompiers et les populations riveraines sont en action. Le bilan provisoire, en attendant les conclusions des enquêtes, fait état de 15 morts déposés à la morgue et 10 blessés, dont 6 cas graves, tous pris en charge aux urgences de l'hôpital de référence de Saint-Mélima et à l'hôpital de district. Le gouverneur du Sud, Félix Nguelenguele.
Au-delà de ce qui va se dire au niveau des enquêtes, nous pensons que l'excès de vitesse et puis le sommeil ont été à l'origine de cet accident. Nous exprimons toutes nos condoléances au nom du gouvernement de la République aux familles.
Sur instruction des autorités, les épaves des deux véhicules sont évacuées de ce virage réputé accidentogène par les riverains. Le gouverneur, accompagné du préfet du Jaé Lobo et sa suite, vont se rendre dans les structures sanitaires suscitées pour se rassurer de la prise en charge effective des accidentés, tout en touchant un mot de réconfort à leur endroit. Flavien Zorbo, Saint-Mélima-Sy RTV.
17h11. Tout autre chose à présent, le ministre de la décentralisation et du développement local donne un point de presse en ce moment dans son département ministériel. Georges Langaoubam présente en compagnie du coordonnateur du programme Prologue les contours de cette initiative qui vise à soutenir 187 communes à hauteur de 189 milliards de francs CFA pendant 4 ans. Le soutien financier de la Banque mondiale cible ainsi les collectivités territoriales décentralisées affichant de belles performances tout en leur permettant de lutter contre les changements climatiques. L'échange avec les hommes et les femmes de médias se poursuit. Nous y reviendrons. C'est parti pour la rentrée professionnelle. Le ton a été donné au centre de formation professionnelle, les ateliers pratiques, un événement placé sous le signe de la formation professionnelle dans le contexte de l'émergence de l'intelligence artificielle. Un thème d'actualité, nous dit Tatiana Iboudou.
L'objectif de cette rentrée est clair, préparer les jeunes Camerounais au métier de demain où l'intelligence artificielle joue un rôle central. La cérémonie de la rentrée de formation a été présidée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. À cette occasion, des experts ont pris la parole pour souligner l'importance de l'IA dans l'évolution des formations professionnelles. Willy Tiwa, expert en intelligence artificielle.
Aujourd'hui, avec cette révolution, ça occasionne de nombreux changements dans énormément de domaines de compétences. Énormément de métiers. Si la formation professionnelle ne se met pas à jour, la formation professionnelle va devenir obsolète.
L'intelligence artificielle n'est plus une tendance du futur. Elle est déjà au cœur de nos vies et des industries. L'intégrer dans nos formations professionnelles est non seulement un impératif pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, mais aussi pour permettre à nos jeunes de devenir des acteurs clés de l'économie numérique.
Nous avons commencé à insérer les filières d'intelligence artificielle dans chacune des filières de formation. Chaque filière de formation aujourd'hui donnée aux ateliers pratiques est optimisée, boostée, dopée à l'intelligence artificielle.
Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a clôturé la cérémonie en réaffirmant l'engagement du gouvernement à soutenir les centres de formation professionnelle. La rentrée est donc lancée sous le signe de l'innovation et de l'intelligence artificielle.
Et sur les raisons du choix du thème de l'intelligence artificielle pour le lancement de cette rentrée professionnelle, je vous propose d'écouter le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari.
Aujourd'hui, le caractère universel, omniprésent de l'intelligence artificielle m'a prescrit de venir vers vous à l'occasion du lancement de la rentrée de la formation professionnelle, d'abord pour célébrer la formation professionnelle, pour dire aux uns et aux autres, la lutte contre le chômage, la construction de la richesse dans notre pays passe inexorablement par la formation professionnelle qu'il faut valoriser, qu'il faut magnifier. Je suis très heureux de constater que cette jeunesse est, comme le voulait le président de la République, M. Paul Biya, qui est président du Sénat de notre nation, cette jeunesse, elle est audacieuse. Et l'autre chose qui me fait plaisir et qui m'a fait passer par ici, c'est que j'apprends, grâce à cette technologie, vous pouvez être au Cameroun et travailler pour quelqu'un en Chine. C'est une manière donc de lutter contre le chômage. J'invite donc cette jeunesse, en particulier cette jeunesse qui détient des parchemins universitaires qui ne leur ouvrent pas toujours les portes de l'emploi. Tout cela peuvent se reconvertir dans les TIC, dans l'intelligence artificielle, pour sortir de la précarité du chômage.
Issa Chiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au micro de Tatiana Eboudou. Un guide pour la gouverne et la culture des forces de défense camerounaises. Le memento de connaissances juridiques de base pour le soldat terre, air, mer vient d'être officiellement présenté à la salle des actes du ministère de la Défense. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Et vous dites, Rabiatou Foudaoutou, que le document sera pour le militaire camerounais un outil de cadrage et d'apprentissage à exploiter autant que possible.
Un contexte sécuritaire sensible, un règlement militaire rigoriste et un environnement qui des fois se heurte à des dérapages. Autant de faits et réalités qui concourent à la mise en route effective du memento. Un manuel de connaissances juridiques de base, de quoi faire du soldat terre, air, mer au Cameroun. Un militaire juridiquement plus cultivé et professionnellement mieux outillé. Le guide a fait l'objet d'une présentation officielle. Le colonel magistrat Louis-Marie Essé en a déroulé les grandes lignes au nom du général des corps d'armée, chef d'état-major des armées.
Nous avons résumé la formule en 3D. Doter d'abord le militaire basique de certaines capacités lui permettant de collecter des éléments de preuve qui pourront être utilisés plus tard par les officiers de police judiciaire, la gendarmerie et de la police. Donc à la justice militaire, ces éléments solides, dissiper la suspicion qu'on a souvent observée entre les opérationnels et puis les institutions judiciaires.
Qu'est-ce que c'est un tribunal militaire? Comment se comporter dans la société? Qu'appelle-t-on exaction? Des questions qui trouvent réponse dans ce memento, l'outil de formation intellectuelle et morale des forces de défense se décline en 5 chapitres.
La constitution du Cameroun, la loi qui porte code de justice militaire, la législation sur les armes, la judiciarisation à laquelle nous faisions allusion, des idées répandues qu'il était question d'écarter.
La présentation officielle présidée par le secrétaire général du ministère au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, le lieu indiqué pour rappeler que chaque soldat gagnerait à consulter autant que possible le tout nouveau memento dans le cadre d'actions opérationnelles pour son instruction personnelle.
Et nous restons au ministère de la Défense, Maureen, pour continuer sur la présentation officielle de cet outil précieux de l'action des forces de défense et de sécurité.
That's right, Larissa. The Ministry of Defense now has a basic legal knowledge guide for soldiers. The handbook was officially presented during a ceremony presided over by the Secretary General of Abdulsulum in the presence of officials of the Army, Air Force and Navy today in Yaoundé. Ngu Henry.
The Basic Legal Knowledge Guide for Soldiers of the Army, Air Force and Navy comprises of 5 chapters on the Constitution because the soldier defends the Constitution and the state, military justice, weapons, judicialization and question asking. The handbook was presented by the judicial advisor to the Defense Chief of Staff, Colonel Assel Louis-Marie.
You have to prove that document, synthesize the soldiers for them to acquire those basic knowledge so that when they are on the battlefield there, after the operation, they can collect evidence, bring them to the police or the gendarmerie, and then when the files come to the state prosecutor of the military court, the file will be solid and maybe, fortunately, it will be lead to a conviction.
The document will go a long way to strengthen collaboration between the military and judiciary in Cameroon. It was distributed during the official presentation ceremony presided over by the Secretary General of the Ministry of Defense, Said Kamsulu, attended by top officials of the Army, Air Force, and Navy in Cameroon.
Over 600 military recruits who have undergone training in Betwa have been promoted to the rank of second-class soldiers with the national flag presented to them in a military ceremony. Their duties and obligations were read out by the commander of the Joint Military Schools and Training Centers, Major General Philip Mpai, who chaired the ceremony. Here are the details with Celestine Sumbele.
These new Cameroonian troops were presented and confirmed before the flag after more than 2 months of rigorous training focused on physical, technical, and tactical training in fighting, weapons handling, shooting, hand-to-hand combat, and discipline. A happy and relieved moment for the second-class soldiers, Somo Charlene Grace and Yuan Loic Fotso.
I'm already a soldier. I'm so happy. I want all my trainers.
We are comfortable and we shall serve the nation wholeheartedly right up to the ultimate sacrifice.
The ceremony's chair, Major General Philippe Pai, commander of military schools and training centers, went over the mission that this batch of soldiers were given. The visit of Stans was an opportunity to discover the soldiers' expertise and understanding of the army's strips and epaulettes. A wonderful festive time that made it possible for the troops' family to join them in celebrating this first step of their training. Celestine Sumbele, CRTV, Betwa.
The newly rehabilitated Marwa Hemodialysis Center is responding to the needs of patients in and out of the region as it has been equipped with 6 additional dialysis machines, increasing the capacity of the center to 12. The director of the Marwa Regional Hospital, Dr. Gerard Fetse-Tamam, says the state of the newly acquired equipment significantly improve on their health care, as Emos Enonya Ketagbo reports.
Of patients, the water treatment room has also been reinforced with adapted equipment and solution for the region. Guan Yu Platine is a technician at the Gima Bambot Healthcare Limited, charged with equipping the Marwa Hemodialysis Center.
When we come for preliminary studies, the water hardness value that we got was just from one source of water. We had to order for an extra softener, which is a bigger one, that can handle hardness of up to what the water quality here is giving us.
From initially 6 patients receiving dialysis on a daily basis, the capacity has doubled to 12 to the satisfaction of the patients and management of the center. Dr. Gerard Fetse-Tama is director of the Marwa Regional Hospital.
You have seen the new water treatment room with brand new machines. Our patients are more satisfied.
The Marwa Hemodialysis Center was inaugurated in 2012 and receives patients in and out of the country. Marwa, Amos Enonyaket Agbo, CLTV News.
Still on health, some women in Yaoundé have been sensitized to the importance of early screening and treatment of breast and cervical cancer. This was during the official launch of a 1-week free screening campaign organized at the Yaoundé Gynecobstetric and Pediatric Hospital. The campaign is part of activities to mark Pink October, a month to fight against breast cancer. Details with Apongse Ate.
Breast and cervical cancer affects more than 2 million women around the world yearly. It is for this reason that women and health specialists have gathered at the Yaoundé Obstetric and Pediatric Hospital to discuss issues concerning breast and cervical cancer. The 1-week sensitization program that started Monday aims at providing information about the disease, treatment, and care. Professor Mbu Robinson Eno, Director General at the Genico Hospital, encourages both young and aged women to come for screening, which is free of charge.
Women should come. The head of state has done it so well that every village has a health facility. So you don't have to be in Yaoundé to be able to examine your breast. Anywhere you are, there is an integrated health center, and so they can be able to examine their breasts.
Meanwhile, women who have gone through screening and treatments in the past have given testimonies.
In 2022, February, I noticed a blister at the nipple of my breast. I came to Yaoundé and I was operated. A whole lot of many things happened, running tests and all of that. And after the operation, I've been following treatment. Until now, I am fine, as I can say.
Medics encourage women to go for checkups twice a year to prevent the disease that kills about 6,000 women every year around the world.
You are listening to the 5 to 6 p.m. As heard in one of our top stories, 40 vocational training institutions in the Adamawa region have opened their doors for the 2024-2025 training season. The institutions are implementing innovative programs designed to meet the demands of the job market and are thus focusing on fields like technology, agriculture, and renewable energy. Elis Wajibanmia tells us more.
Vocational training institutions in Gaundera are renewing commitments to equipping young people with essential skills for the workforce this new training season.
Suraya Yusufa.
Cameroon imports a lot of fish, so I decided to do a training in aquaculture so that I can help in producing enough fish for local consumption.
The 40 vocational training institutions in the Adamawa are also introducing new curricula that align with industry needs, believing these programs will empower youth and help bridge the skills gap.
Tewamba Desire, director of SASM of Gawundere. All web teacher is present and we have 60 students. We have a mason, electricity, a carpenter, tailor.
While visiting some of these institutions in Gawundere, the Secretary General at the Adamawa Governor's Office, Christian Aboma Bilowa, commended the efforts of the proprietors to train future job creators, especially with the start of the new training season. He encouraged the learners to be assiduous and contribute to local development. Ellis Wajibanmiya, CRTV News, Ngaundiri.
26 minutes past 5 p.m. The 5 to 6 p.m. continues with you, Larissa, and we talk about an oath-taking ceremony of some newly graduated lawyers in Yaoundé.
Au barreau du Cameroun, le tableau de l'ordre s'enrichit de 6 nouveaux jeunes avocats. Ils ont prêté serment ce mercredi au cours d'une audience solennelle que conduisait Gilbert Schlick, le vice-président de la cour d'appel du centre. Les impétrants font partie des recalés de la QV 2014 et ont été invités au respect des obligations liées à l'exercice de la profession, avec un accent sur le principe de probité. Le Cameroun a lancé ce jour à Douala un projet dénommé Opération de soutien au secteur privé. L'initiative est financée par les partenaires au développement à hauteur de 12,5 milliards de francs CFA et sera mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement à l'effet de renforcer la résilience des petites et moyennes entreprises dans 6 régions. Augustin Guizana de CRTV Littoral nous en dit plus.
Ils sont venus du sud-ouest et du littoral, deux régions bénéficiaires de l'opération de soutien au secteur privé camerounais initiée par le gouvernement. Ils s'imprègnent aujourd'hui de ce projet dont l'objectif est le renforcement de la résilience des entreprises. L'enveloppe globale est de 12,5 milliards de francs CFA et va couvrir 6 régions, à savoir le centre, l'ouest, l'extrême nord, le sud-ouest et le littoral pour une période de 3 ans. Il est question d'assurer le relèvement des entreprises affectées par les crises et améliorer l'environnement des affaires, renforcer la compétitivité des entreprises et l'accès au financement, notamment des petites et moyennes entreprises. Et pour que tous les acteurs soient au même niveau d'information, une série de missions est donc initiée. Responsable des services déconcentrés du ministère de l'économie, des petites et moyennes entreprises, de la décentralisation, opérateurs économiques et bailleurs de fonds échangent sur ce cadre intégré d'accompagnement des PME. En procédant au lancement de la campagne de la composante sud-ouest littorale, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Diboua a indiqué qu'à travers ce projet, l'État veut bâtir une croissance durable et inclusive. Le secteur privé doit donc saisir cette opportunité. Douala, Augustin Guizana, CRTV.
Et pour une croissance inclusive, on mise également sur l'agriculture durable. Le gouvernement camerounais entend travailler main dans la main avec le secteur privé et la société civile pour renforcer le cadre juridique en la matière. C'est tout le sens d'un atelier de plaidoyer et de réforme du projet dénommé Global Système et Politiques Agricoles Durables, lancé par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbayrobé. L'opération portée par la GIZ, l'organisme de coopération allemand, vise à développer les systèmes agricoles en mettant l'emphase sur la préservation de l'environnement. Je vous propose d'écouter le ministre Gabriel Mbayrobé sur l'importance de ce projet. Il est au micro de Landrine Zanga.
La notion d'agriculture durable fait appel à l'amélioration de la productivité et de la production, l'amélioration de la qualité nutritionnelle des populations, la préservation de la biodiversité et la protection de l'environnement. Il est bien vrai que l'agriculture familiale a été la base de notre résilience agricole et économique, mais cette agriculture ne nous permet plus de faire face aux défis de la démographie galopante, à la mauvaise répartition de population. Il y a 60 à 70% des populations qui sont dans les grandes villes et faire face à un certain nombre de chocs externes. Donc, face à tout cela, il faut mettre en place une agriculture durable, qui maîtrise les facteurs de production, une agriculture qui produit un revenu décent à celui qui le pratique et une agriculture qui permette de faire face aux défis mondiaux. Et c'est pour cela que le chef de l'État nous a engagés à booster l'émergence des grandes et moyennes exploitations.
Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Il est également question de croissance au sens plus large dans la sous-région Afrique centrale. La communauté table sur un budget de près de 85 milliards de francs CFA pour 2025. Une enveloppe qui devrait permettre l'implémentation de projets de développement. Les experts en tout cas qualifient ce budget de réaliste comparativement à 2024, nous dit Sylvain Yorman.
Environ 85 milliards de francs CFA, c'est la projection de budget de la communauté pour 2025. Projet présenté par le vice-président de la commission de la CEMAC, Dr Charles Asamba Ongodo, lors des travaux du comité inter-état de la CEMAC à Bangui, en République centrafricaine. L'on note une baisse de plus de 5 milliards par rapport au budget de 2024. Cette diminution s'explique par un ensemble de facteurs. Il s'agit pour l'essentiel de la crise immobilière en Asie, des vulnérabilités climatiques, de la fragmentation géoéconomique, des tensions géopolitiques, du flux des réfugiés. Des facteurs qui ont un impact direct sur les économies des pays membres de la CEMAC. Au-delà, il y a le faible niveau de mobilisation des recettes et de la taxe communautaire d'intégration. Une situation qui pénalise l'exécution du budget. C'est dans ce sens que les experts prônent l'adoption des textes relatifs à l'harmonisation fiscale en zone CEMAC et surtout l'assise de la stratégie d'industrialisation durable de la filière bois dans le bassin du Congo. Les institutions communautaires ne vont plus dépendre du fonds d'aide à la coopération économique et au développement, FODEC en abrégé.
17h32 minutes sur l'ensemble du réseau Radio CRTV dans la suite de l'actualité Maureen, la promotion de l'entrepreneuriat en milieu jeune.
About 6,000 youth from across Cameroon are expected to take part in the fourth edition of the International Fair for the Promotion of Youth Entrepreneurship, scheduled for the 3rd to the 9th of December 2024 in Yaoundé. Presiding over the preparatory meeting for the event today in Yaoundé, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futso, said that the fair will be coupled with the commemoration of the 5th anniversary of Youth Connect Cameroon. The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futso, called on the organizing committee to adopt activities that will make CIPROM 2024 an incubator breeding young entrepreneurs. Here is an excerpt of his interview selected by Colette Jani.
This first meeting, which we intended to be broad-based and coming just 2 months before the event, calls for the pooling of energies around this project more than ever to ensure that all stakeholders share the same level of understanding. This meeting is also intended to provide a clearer picture of all the essential aspects of the planned activities and to build on and bring to fruition all the proposals and contributions made. We must therefore not forget the urgent need to make CIPROM Jeune forum for promoting the actions and products of young beneficiaries of government and non-government projects and programs, a breeding ground for young entrepreneurs, and a framework for adopting the strategy of integrating young businesses into the free trade movement as called for by African countries themselves.
The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, in an interview selected for us by Colette Jani. Cyber criminality is reportedly on the rise in the country with a myriad of complaints about hacking into online accounts on said media platforms like WhatsApp and Facebook. The criminals have devised various means to extort huge sums of money from their victims. This report by Vanessa Wunang Snamung.
On this day, I was driving from Muyuka. I was using my Android watch when that call came in. All sober presidents are required to join a Zoom call, blah, 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 blah. Please, have you seen the code? I said, no, there's a code that has come to you. You need to read it out to me. So ignorantly, I just read it out. And I'm sure he put in my number on another device and then put in that code. That's how I got locked out of my phone and he could use my number on WhatsApp.
A rather unfortunate experience many like Fritz Nkea have had to undergo with the advent of the hacking of WhatsApp accounts. Melanie too recounts her ordeal with what some describe as online monsters.
A friend of mine called me 2 weeks ago, and after greeting, she asked what I wanted to do with the huge amount of money I requested in the message I sent to her. I replied to her, great shock, that I didn't send the message. Then we realized that my WhatsApp account was hacked.
A new cybercrime, spreading like wildfire and perpetrated by men of the underworld who use an ICT link to lure and enter a conversation with their correspondents, pretending to be the owners of the account. Hundreds of thousands have been lost by subscribers of mobile telephone money transfer services to the benefits of these unscrupulous culprits with just a click.
We'll be understanding the impact of the rising trend of fake news on the internet and how users can identify fake news in our focus of the day during the magazine segment of this edition of the 5 to 6 p.m. On today's press release, the Minister of Post and Telecommunications will embark on a visit to the technical installations of the electronic communications operators on Thursday, 10 October 2024. The purpose of the visit, which will begin the same day in Douala with MTN Cameroon and Orange Cameroon, is to assess the implementation of the recommendations made to the mobile operators and their commitments made during the recent consultations. This field visit comes on the heels of a visit to the said operators by the General Manager of the Telecommunications Regulatory Board, in accordance with the directives of the Minister of Post and Telecommunications. It comes at a time when users are increasingly complaining about the gradual deterioration of the services offered to them, and is aimed at improving electronic communication services in Cameroon in keeping with the relevant prescriptions by the head of state.
La ministre des Postes et Télécommunications entame demain jeudi 10 octobre 2024 une visite des installations techniques des opérateurs de communication électronique. Il s'agira au cours de cette visite, qui débutera à Douala par MTN Cameroun et Orange Cameroun, d'évaluer la mise en œuvre des recommandations prescrites aux opérateurs de téléphonie mobile et de leurs engagements pris durant les dernières concertations. Cette descente intervient à la suite de la visite effectuée auprès des 10 opérateurs par le directeur général de l'agence de régulation des télécommunications, dans un contexte marqué par les plaintes de plus en plus constantes des usagers face à la dégradation progressive des services qui leur sont offerts, et vise par ailleurs l'amélioration des services des communications électroniques au Cameroun en droit de ligne des très hautes prescriptions du chef de l'État. Douala, où la mission humanitaire Peace Arc, autorisée par le chef de l'État, évolue de façon satisfaisante. Déjà 2500 patients consultés en 48 heures, selon le gouverneur de la région du littoral. Samuel Dieudonné Ivaradibois recevait cet après-midi les médecins chinois de cette expédition humanitaire. Et avant la partie magazine du 17-18, cette note du ministre des Finances qui porte à la connaissance des directeurs généraux des établissements publics et des maires qu'en application des dispositions de la loi du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024, les attestations de retenue à la source des impôts et taxes sont désormais délivrées exclusivement en ligne à travers le module e-billing du système informatique de l'administration fiscale. Pour assurer le plein succès de la mise en œuvre de cette réforme, dont la phase de généralisation est intervenue depuis le 18 mars 2024, des sessions de formation sont projetées à l'intention des agents comptables et des receveurs municipaux à l'auditorium de la Direction générale des impôts, les mercredis 9 octobre pour les receveurs municipaux et jeudi 10 octobre 2024 pour les agents comptables de 14h à 17h. Le ministre des Finances invite les responsables concernés à prendre massivement part à ces sessions de formation qui leur permettront d'être suffisamment outillés pour mener leurs opérations sur la plateforme dédiée e-billing. Par ailleurs, il rappelle qu'un dispositif d'assistance en ligne et à distance est mis en place à travers le centre d'appel téléphonique de la Direction générale des impôts, numéro 8200, et à la plateforme électronique Help Desk, accessible à l'adresse www.support.harmonie2.cm. Le ministre des Finances, lui, Paul Mottez, compte sur le civisme habituel et la collaboration de tous.
Get the latest news in Africa and the world only on the 5 to 6 p.m.
Encore et toujours les réseaux sociaux, encore et toujours les fake news. Il y en aura probablement toujours sous l'effet conjugué des tribunes et autres boulevards d'expression qu'offrent le digital et de la mauvaise foi de certains internautes opérant en bande désorganisée. Il reste tout de même possible de démêler le vrai du faux, de démêler le vrai de l'ivraie. C'est à cet exercice qu'il faut se soumettre pour éviter le piège de la désinformation et incidemment le piège de l'instrumentalisation, davantage en contexte politique, véritable haute saison pour les fake news. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, il s'agit là de la trame du focus du jour et notre sentinelle TIC ce mercredi est Somlingom, déjà en notre compagnie.
Sam Lingam, with us here in the studio, will give us an in-depth look at the rising trend of fake news on the internet. Good evening, Sam, and thanks for coming.
Good evening, Maureen. Hi, Larissa.
What is fake news, and is there any difference between fake and false information?
Experts now recommend avoiding the term fake news, or at least limiting its use, as the term is closely associated with politics, and this association can unhelpfully narrow the focus of the issue. The term false information is preferably, as it can refer to a diverse range of misinformation and disinformation covering areas such as health, environment, and economics across all platforms and genres, while fake news is more narrowly understood as falsified political news stories. Let us now talk about false information to say that lots of things we read or listen to online, especially in our social media feeds, may appear to be true, but most often they are not. False information is news stories or hoaxes created to deliberately misinform or deceive readers, listeners, or viewers. Usually, these stories are created to either influence people's views, push a political agenda, or cause confusion, and can be a profitable business for online publishers.
Tell us, Sam, what explains the exponential spread of false information today?
Maureen, false information is not new. However, it has become a hot topic and widespread with the upsurge of user-generated content during the 2016 U.S. general elections, when Donald Trump claimed to be a victim of fake news. Traditionally, we got our news from trusted sources, journalists, and media outlets used to follow strict codes of practice to inform us. But today, they are all being influenced by citizen journalism, taking their inspiration from dubious online sources. The economics of social media favors gossip, novelty, speed, and what I can term here, shareability. Maureen, last Monday, for example, many social platforms in Cameroon started disseminating fake news about the health of the head of state currently in a private visit abroad. This type of false information is dangerous because it can create confusion and panic in a country, particularly when it is accessed by fragile users who do not have a good mastery of the internet to verify this type of information.
Before you leave us, how can an internet user easily spot false information on the world web, on the World Wide Web?
Yeah, the vast amounts of information available online and the rise in fake news highlights the needs for critical thinking. This includes a number of things that should be washed out for before appreciating any online content. The first thing to do is to identify the person or the organization publishing the story. It is important to check if the social media account sharing the post is verifiable. most public figures and media outlets display a blue badge or check mark, which means the account has been authenticated. This can mean that the content of the post is likely to be reliable, although not always. It is also important to take a closer look at the source of the story in order to identify the website. If the website looks unfamiliar or unreliable, the user should look at the About section or find out more information about the author. It is also advised to look beyond the headline, as many fake news stories use sensationalist or shocking headlines to grab attention. There are many other tips, Maureen, that can be used by internet users to avoid online pitfalls.
Sam Lingam, thank you very much for the insight. It's always a pleasure to have you on the 5 to 6 p.m.
My pleasure, Maureen.
La lutte contre les fake news peut s'améliorer au moyen d'une collaboration plus efficiente et plus efficace entre gouvernements et géants des plateformes virtuelles. L'invité du 17-18 en est convaincu. Pour Desmond Gala, promoteur de l'ONG Defy Hate Now, c'est un combat qui passe également et surtout par la sensibilisation. Entretien mené par Gilles-Claude Mbongitundi.
Monsieur Desmond Gala, vous êtes le promoteur de l'ONG Defy Hate Now. Quels sont les impacts les plus significatifs des fake news sur la cohésion sociale et la stabilité politique au Cameroun?
Non seulement les fake news déchirent des communautés, mais ça réduit de manière significative la confiance qui est construite entre les peuples. Mais aussi, nous constatons que sur la scène politique, des personnes utilisent des fake news suivants pour trouver des gains politiques, surtout des entrepreneurs politiques. Mais aussi, le fake news pousse à ce que la jeunesse, surtout, perd en confiance en ce que les dirigeants ont tendance à dire. Nous l'avons vu ça ailleurs et au Cameroun. De nos jours, nous constatons que certaines personnes, en manque d'idées politiques, même sociales, proposent des fake news, c'est-à-dire des informations fabriquées de toutes pièces pour pouvoir dénigrer celui qui est en face, ou bien poser un discours qui n'est pas dans le sens de construire la paix et la cohésion sociale. Mais aussi avec l'événement des réseaux sociaux, ça pousse à ce que la portée est beaucoup plus rapide et puis plus grande.
Quels facteurs psychologiques incitent les citoyens à partager des fake news sans vérifier leur véracité?
Je pense que le sensationnalisme est l'un des premiers facteurs que nous voyons beaucoup plus. Le public, surtout à une certaine partie de la jeunesse, et tout ce qui semble être vrai pour eux. Mais aussi, c'est beaucoup plus sur l'angle de cette pression qui vient de la société, à savoir ceux qui se disent, moi je vais être la première à publier l'information, je vais aussi contribuer à un débat social et politique. Ça pousse beaucoup plus des personnes, soit à partager, soit à émettre des fake news.
Quelles sont les principales motivations des officines virtuelles derrière la propagation des fake news, notamment sur les réseaux sociaux?
C'est pour atteindre certaines personnalités, mais aussi c'est pour distraire l'opinion nationale sur des questions qui touchent au débat national. Quand vous commencez à pousser un discours qui tend à demander ou bien à dénigrer ou bien à réduire quelqu'un, on va quitter sur des vraies choses comme on a l'habitude de dire pour se focaliser. Mais en deuxième lieu aussi, c'est pour faire savoir à celui qui est en face de nous que nous sommes plus forts que vous, nous avons plus de moyens, on peut vous réduire en rien. C'est pour cela d'ailleurs qu'on voit des vies personnelles se retrouver sous la toile avec des informations qui sont montées. Le but est très simple, hein, c'est économique. Vous voyez, que ça soit en vie sociale ou bien économique, vous voyez des personnes qui s'amusent avec des informations qui sont fabriquées de toutes pièces juste pour pousser une certaine opinion à ne pas croire ou bien à croire.
Comment les autorités et les plateformes numériques peuvent-elles mieux collaborer pour réguler la diffusion des fake news?
Le point capital, c'est la liberté d'expression. Mais je pense à la technologie, à savoir les groupes comme Meta, par exemple, et Google. Donc, les autorités devaient se mettre ensemble. Je pense que dans certaines régions, on a vu des pays qui ont rappelé à l'ordre de certaines plateformes. Les pays africains, surtout les pays de la sous-région d'Afrique centrale, devaient se mettre ensemble pour demander aussi aux détenteurs de ces plateformes de se conformer aux règles et aux normes locaux.
Monsieur Desmond Gala, promoteur de l'ONG Defy Hate Now, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Actualité en perspective avant la page étrangère de ce journal. Le sénateur du centre Jean-Marie Pongmoni procède demain jeudi à la remise de fournitures scolaires aux enfants socialement vulnérables des écoles primaires des 7 arrondissements de la Haute-Sanaga. La cérémonie se déroulera à l'esplanade de la place des fêtes de Nangaïboko et sera présidée par le préfet du département de la Haute-Sanaga. La cérémonie de remise au solennel de bourses universitaires aux lauréats du baccalauréat et du GCE Advanced Level à Mungang, parrainée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, initialement prévue vendredi, aura plutôt lieu demain, jeudi 10 octobre, dans l'arrondissement de Mungang.
News out of Cameroon, tributes are pouring in for the widely admired but controversial founder of the Rema Bible Church, South Africa, Ray McCauley, who has died age 75. President Cyril Ramaphosa extended his deep condolences, saying that Pastor Ray's death leaves the spiritual nation bereft of a remarkable leader. The Rema Bible Church has more than 45,000 members and is considered one of the most influential churches in South Africa. A Rwandan YouTuber has been sentenced to 7 years in prison for breaching the country's laws on genocide denial. Rashid Hakuzimana, who was arrested in 2021, denied all the charges, which also included inciting ethnic division and spreading false information for claiming that anyone who dares to challenge President Paul Kagame in elections is jailed. During the trial, he told the court that it was criticism of the government in his popular YouTube videos that was the real reason for his arrest.
Au Kenya, le vice-président Rigathi Gachagua destitue le Parlement. C'est le dernier épisode en date de profondes tensions au sein du gouvernement qui l'accuse autant que les parlementaires d'avoir soutenu les manifestations anti-gouvernementales de juin dernier. Et après l'Assemblée nationale, le Sénat devrait entériner cette décision. Au Mozambique, près de 17 millions d'électeurs se rendent aux urnes depuis ce matin à l'effet d'élire le prochain président ainsi que 250 membres du Parlement et des assemblées provinciales. Boris Lemamoum nous en dit plus.
À Maputo, la capitale du Mozambique, les électeurs ont bravé la pluie, bien décidés à remplir leurs devoirs citoyens. Au total, plus de 17 millions de Mozambicains étaient attendus aux urnes ce mercredi 9 octobre. Le président sortant Philippe Nyusi, à défaut de pouvoir se représenter, a été l'un des premiers à rejoindre les isoloirs de l'école Josina Makel, transformée en bureau de vote. Selon la Commission électorale nationale, la CNE, plus de 36 partis politiques sont en liste pour ces élections générales. En ce qui concerne précisément la présidentielle, 4 candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel, l'organe suprême chargé des questions électorales au Mozambique. Cette journée de scrutin met un thème à 45 jours de campagne et alimente le débat auprès des Mozambicains qui espèrent des élections transparentes.
Time to talk sports, and senior reporter Simon Lyonga is here in the studio with us. Hello, Simon.
Hi there, Maureen.
The Indomitable Lions of Cameroon are presently training at the Ahmadou Ahidjo Stadium in Yaoundé ahead of Friday's Africa Cup of Nations qualifying game against the Harambee Stars of Kenya.
The den is now full, Maureen, following the arrival of Nicolas Brice Mumingamale today, as Mark Brice continues to lay down strategies not only for a victory on Friday, but also win back the top seed in Group J. The game will be the ninth between Cameroon and Kenya, with focus tilting Cameroon's way after 4 wins in 8 confrontations, 4 draws and no defeats. The Indomitable Lions have been on target 14 times in the 8 games as against 7 for the Harambee Stars. Meanwhile, history has it that the Lions have always qualified for the Nations Cup final tournament whenever they have Kenya in their qualifying group. Enough to instill confidence in their fans.
Chaque patrol here, somebody decided to spend some minutes to see them training. As Cameroonian, I'm satisfied. The way things are going on now is better than yesterday.
Atangri Benoa, my best player, Rio Nana. I'm happy because I see the lion is here and the training is going well. 2-0. If the Kenyan score one goal, we win 2-1.
It is Okumelo. Here to see them train and to encourage them because I have more confidence. Wish them the best for Friday.
We are playing against Kenya. What's your expectations?
I'm sure our team will make it as usual.
And Friday's game will begin at 5 p.m. Cameroon time. The other Group J game to pit the Brave Warriors of Namibia against the Warriors of Zimbabwe will be played at 2 p.m. tomorrow at the Orlando Stadium in Johannesburg in South Africa. Still tomorrow, there will be some other games, five of them, Cape Verde versus Botswana. The DR Congo will host Tanzania. Ghana will play against Sudan, Algeria versus Togo, and Burkina Faso will host Burundi. The other games have been scheduled for Friday morning.
And the 8th edition of the National Games of Cameroon is being prepared. Simon, the governor of the Central Region, says all those involved in preparing for the event should double their efforts and make it a success story.
Remember, Maureen, the competition will be hosted by the Central Region in December this year, and therefore the involvement of Governor Nasiri Paul Biya, who doubles as the president of the local organizing committee. He stressed on collaboration between the organizing committee and the National Olympic Sports and Sports Committee to offer the nation the best in December. Harrison Ashutiko has more.
In 2 months, the nation's capital, Yaoundé, will host the 8th edition of the Dixiad, which will feature young athletes from the 10 regions of the country. The governor of the Central Region, who is heading the local organizing committee, charged the 12 commissions of the organization to get to work immediately, insisting that efficiency should be the watchword. Shakwo Kote is the head of the competition commission.
I can ensure the president of the Olympic Committee and the governor that they will have the best competition in terms of organization. And you know, this side is a very important competition. And after this competition, we need to select those who will represent our country.
Respect for Olympic values was recommended to all the stakeholders by the first vice president of the Cameroon Olympic and Sports Committee, Gregoire Owona. A call that Governor Nasiri Paul Biya says will make the event exceptional.
We have put in place very strategic commissions owing to the importance of our region so that we can make a difference. You will see it for yourself. And we want to call on all the committee members of the various commissions which have been appointed today and installed to start working.
The expertise of the president of the Constitutional Council, Clement Atangana, who doubles as the president of the Honorary Committee, is also another advantage to the organization of the upcoming 2025 National Games.
Harrison Ashutiko reporting to note Maureen that the competition is coming at a time when many are saying it is a competition too many, with the FENASCO and University Games also in the sports calendar. But the president of the National Olympic and Sports Committee of Cameroon, Colonel Herman Kalkaba Malboum, explains why the Dixiad is unique in its kind.
The Dixiad is very important for the youth of Cameroon. Because we are talking all the time, unity, vivre ensemble. You must bring people together to understand that. When the Dixiad gathered the team from the region, the team from the region will select the best athlete of the region, from the military, from the civilian, from the school, from the universities. That those athletes, they select one school in the region. But those who are not qualified, we have talented athletes, they cannot participate here. It is the same for the university. So Dixiad is like the Olympic Games, the best of the country. And then the age of the Dixiad, under 20. This is the right age where we can select people to go to compete at the international level. This kind of games will give a hard image to the region.
And we end our sports package on a rather sad note. Unfortunately, Simon, reactions are still streaming in after the death of the former FECAFOOT president, Vincent Onana.
Remember, he was the first elected president of FECAFOOT because before then, the others were appointed. He was at the helm of the Chinga Football House for 2 years, but many have denied to forget his passage because of the legacy he left behind. One of them, Albert Gijol, is now working in the United States of America. When I got in contact with him, he told me he was a deputy scribe under Vincent Onana. Hear him.
I met with Vincent Unanai in 1973 while we were students in Yaoundé. In 1996, after the very first Fika Food president vote, but Mr. Onana won, I was also elected as Deputy General Secretary of the Federation, and we formed a very strong and connected team. Mr. Onana had a big vision for Cameroon football. He knew how to make the difference between bureaucracy and collaboration. We had this big contract with Puma that lasted, I think, 20 years. Cameroon team qualified for the African Cup of Nations 1998 in Burkina Faso and the World Cup 1998 in France. Mr. Onana was a good man.
Quite unfortunate, Simon.
Certainly, he was
and
a good man.
That marks an end on the 5 to 6 sports package presented and prepared for you and for our audience. Thank you.
Thank you. Thank you for having me.
Principale information à retenir du 17-18, formation professionnelle, jour de rentrée officielle. Le temps de l'année 2024-2025 a été donné sur fond d'appel à une meilleure appréhension de l'intelligence artificielle dans le secteur. Et puis, axe 100 Mélima Yaoundé, l'horreur et la douleur. 15 personnes ont perdu la vie ce matin dans un accident de la circulation routière impliquant un gros porteur et un bus de transport interurbain. Les premiers éléments de l'enquête désignent l'excès de vitesse et le non-respect des règles de circulation de la part du conducteur du gros porteur.
15 people are reported dead, 10 others injured following an accident that occurred this morning in Kombe, a locality in Sangmelima subdivision of the South Region, while 8 people in Mayodanai division in the north, in the far north, have been killed in the canoe accident on the Logone River. That's the end of the 5 to 6 p.m. presented by Maureen Wanziwilai and Larissa Engana under the supervision of the editor-in-chief, Florence Mucke. Thanks for listening and do stay tuned to programs on the national station of the CRTV.